Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Attention, on marche sur des œufs. C'est le nom de cette opération gérée par le Conservatoire du Littoral pour protéger certaines espèces d'oiseaux qui nichent dans le sable de nos plages. C'est le cas par exemple du gravelot à collier interrompu. Avant d'en parler dans quelques minutes avec Alain Bendimérade du Conservatoire du Littoral, direction une plage de Tréguin dans le Finistère Sud, pour suivre David Emery de l'association Bretagne Vivante. Avec une service civique, il veille quotidiennement à la protection de cette espèce. C'est un reportage de Radio Boa, votre radio associative régionale en Bretagne.
On va faire ça sur la plage. Et du coup, on va faire un peu de prospection. Et puis, on va aller contrôler un nid qu'on a déjà trouvé et qu'on a mis en défense. Alors, moi, je m'appelle David Emery. Je suis le coordinateur régional du suivi du gravelot sur les hauts de plage en Bretagne. On embauche des services civiques qui vont être les gardiens de gravelot et qui vont nous aider dans cette tâche. Donc ce matin, on va aller sur la plage de Penlore, sur le secteur des étangs de Trévignon, dans le sud Finistère donc, et accompagné d'Anne Constance, qui est la gardienne des gravelots localement. On va prospecter un peu la plage pour voir s'il y a des nouveaux couples qui se sont installés, donc s'il y a eu des pontes qui ont été déposées qu'on n'a pas encore trouvées, et on va aller contrôler les nids qu'on a déjà découverts pour voir si l'incubation des œufs se passe bien et s'il n'y a pas eu de prédation ou de dégradation des mesures de défense ou des nids. Donc c'est là le nid dont tu me parlais, c'est ça? Ok. Et celui-là, on l'a trouvé quand?
Il y a, je crois, une semaine à peu près.
D'accord, et qui a ponte complète, donc vu qu'il y a d'enclos.
Ouais. 3 œufs.
La cage ou pas la cage?
Cage,
okay.
Et enclos.
Donc là, vous voyez, on met des petits panneaux sauts pour indiquer qu'en fait, on arrive sur un secteur où il y a un nid qui a été trouvé et pour que les gens fassent attention. Donc évite de marcher en haute plage, plus aille vers le bas de la plage, près de l'eau, où là, en fait, les dérangements sont moins importants. Alors les nids des gravelots sont dans les hautes plages et en plus pour compliquer la situation, le mâle fait une cuvette, creuse une cuvette dans le sable. La femelle va y déposer ses 3 œufs mimétiques avec le sable, sont de couleur beige avec des petits points noirs. Ils sont souvent recouverts un peu de sable et on voit souvent un tiers de l'œuf qui dépasse un peu comme un iceberg. Et c'est ça qui les rend vulnérables en fait, c'est que l'œil non averti, comme l'œil averti des fois, peut passer à côté sans les voir. Donc on n'est pas 2 ou 3 à se promener sur la plage, plusieurs centaines voire milliers de personnes dans la journée qui passent en haute plage, un endroit où il y a un nid, si on ne sait pas, on marche dessus, on ne sait même pas qu'on a marché dessus. Alors ce matin, oui, c'est comme tous les jours quasiment, Anne-Constance arpente les plages à pied. Donc elle est à la recherche d'indices qui montreraient que des adultes, des couples se sont installés. Et puis si on trouve une ponte, on fait le nécessaire. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre à relever, déjà pour nos connaissances, donc l'habitat. Prendre un point GPS pour la localisation du nid, le nombre d'œufs ou de poussins, les adultes, est-ce qu'ils sont bagués ou pas bagués, si certains adultes ont des combinaisons de bagues couleur qui permettent de les identifier à distance. C'est leur passeport en gros. Et puis, si on est sur une ponte complète, c'est-à-dire 3 œufs, on peut, si on estime que la situation du nid n'est pas très bonne, mettre un enclos, voire cette année, on rajoute des cages. Parce que les cages contre les prédateurs spécialisés comme les corvidés, c'est très efficace, ils n'atteignent pas les œufs et ça donne plus de chances que les œufs aillent à éclosion. Vous voyez, au milieu, derrière la touffe d'œillat, on voit les 3 petits œufs. Donc là, on a mis un enclos d'à peu près 20 mètres carrés. Tiens, tu vas là-bas. Et plus une cage. Comme ça, le nid est bien en sécurité. Et la cage, là, c'est vraiment contre les prédateurs. Et l'enclos, c'est pour éviter que les gens aillent trop près, justement, du nid.
La menace principale pour le gravelot, est-ce que c'est justement l'être humain? On vient de parler beaucoup des êtres humains sur les plages.
En fait, pas forcément l'être humain. Chaque année, on a entre 5 et 7% de pontes qui sont détruites par les activités humaines. Et dans les activités humaines, on intègre la présence des chiens. Mais après, il y a les conditions climatiques, il y a les aléas climatiques, il y a la submersion marine. Parce que nos petits amis gravelots, ben, des fois, ils oublient que la marée peut monter très très haut. Donc, ils peuvent faire leur nid assez bas. Et du coup, les pontes sont submergées. Ça, c'est 13% en moyenne par an de pontes qui sont perdues. Mais on ne peut rien faire. On ne va pas faire une ligne Maginot sur tout le littoral pour protéger les pontes. C'est à eux d'apprendre. Donc, ça fait partie de l'apprentissage. Après, il y a la prédation par la faune sauvage. Donc ça, c'est naturel. On ne peut rien y faire. Sauf dans des cas où on peut avoir des espèces qui sont spécialisées dans la prédation des gravelots et en plus des espèces qui auraient pu être favorisées par la présence de l'homme. Je pense aux corvidés, où aujourd'hui on voit de plus en plus de corvidés sur les plages, alors qu'il y a 30 ans, il n'y en avait pas un seul qui traînait, quoi. Quand on va à la plage, on laisse un petit morceau de gâteau, de sandwich, et ça c'est de la nourriture facile pour certains prédateurs. Du coup, leur présence est plus accrue sur les plages aussi. Mais après, et là, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, le gravelot peut aussi chercher à avoir de la présence humaine pour avoir une sorte de protection pendant la journée contre la prédation. Mais il faut que cette présence humaine elle soit raisonnée, que les gens soient sensibilisés à ce qui se passe et fassent attention à ce qui se passe. Donc éviter les hautes plages, faire attention là où il y a des zones de protection. Quand ils voient des oiseaux qui miment une blessure, qui alarment, qui poussent des cris stridents, ils s'écartent. À partir de là, la présence humaine peut avoir moins d'impact. Et il y a encore quand même beaucoup de travail à faire, parce que même s'il y a une partie de la population qui est sensibilisée, c'est une petite partie. Et le travail est de longue haleine, il faut répéter, répéter, répéter. Et dans notre inconscient collectif, la plage, c'est un grand terrain de jeu où il n'y a pas âme qui vive. Or, il y a des milliards d'êtres vivants sur la plage, et les plages sont des plages qui sont vivantes. C'est des milieux vivants où il y a une flore, une faune très localisée qu'on ne peut pas trouver au milieu de la montagne ou en plaine parisienne. Et donc, il faut faire attention à ça, parce que le jour où nos plages seront en très 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 mauvais état de santé, il n'y aura plus tout ça. Donc on aura tout perdu.
Donc on peut voir la femelle sur la droite et le mâle sur la gauche. Je m'appelle Anne-Constance Comeau et donc je suis en service civique chez Bretagne Vivante et je suis responsable du gardiennage des gravelots à Tréguin. En fait, je marche légèrement en haute plage. Et je regarde au loin pour voir si je vois un individu de gravelot. Et à ce moment-là, je vais m'arrêter, m'éloigner un petit peu et regarder le comportement. Et suivant le comportement, ça peut peut-être indiquer qu'il y a un nid.
Ok, donc il faut être extrêmement observateur et vous êtes muni aussi de longue vue.
La longue vue va me permettre, au moment où je vois l'individu, de vérifier s'il est bagué, ce qui va me permettre de l'identifier en fait. Les individus bagués ont 5 bagues, donc colorées. Et donc on va pouvoir regarder l'identité de l'individu et pouvoir le suivre justement géographiquement, savoir où il se reproduit et puis éventuellement avec qui, si le partenaire est aussi bagué. Donc le mâle, il a une bague, il est un peu plus sombre sur le dessus et comme le collier aussi un peu plus sombre et la collette plus rousse. Et on peut voir là, les deux, ils sont bagués.
Ça c'est génial parce qu'on va pouvoir connaître leur vie et savoir où ils ont été bagués, quand. Et là, on peut les suivre très facilement sur la plage. Et là, le mâle est en train de pousser des petits cris d'alarme. On peut les entendre un petit peu, mais c'est assez faible. Et parce qu'ils ne sont pas rassurés qu'on soit là, mais ils sont quand même assez cool. Hein, ils ne bougent pas trop, quoi. Donc potentiellement, là, on est sur un futur site de ponte. Et c'est à surveiller. Donc Anne-Constance repassera régulièrement là, cette semaine pour voir s'il n'y a pas une ponte qui va être déposée. On a trouvé une cuvette, donc c'est plutôt bon signe. Je crois même qu'il y en a une en face de nous.
Voilà pour ce reportage à Tréguin, dans le Finistère Sud, sur cette action de veille et de protection du gravelot à collier interrompu menée ici par l'association Bretagne Vivante. Alors pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons aujourd'hui Alain Bendimerad, chargé de mission opération Attention, on marche sur des œufs, à la délégation Bretagne du Conservatoire du Littoral. Alain Bendimerad, bonjour.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, comment réagissez-vous au reportage que l'on vient d'entendre, la protection de ce fameux gravelot ?
Alors l'action menée par Arbre Protéine Vivante est plutôt représentative de ce qui se passe en Bretagne. On reconnaît facilement les gardiens de gravelots, c'est comme ça qu'on les appelle, les personnes qui s'occupent de la protection des gravelots à collier interrompu chez Bretagne Vivante. Voilà, ils sont habillés tout en bleu, un bleu assez profond. Donc on les reconnaît facilement sur le littoral. Voilà, ce sont des professionnels et aussi bien des bénévoles, des services civiques, des stagiaires. Donc c'est assez représentatif, c'est vraiment de la communication sur le terrain, de la sensibilisation auprès du grand public, aussi bien des touristes que ce qu'on appelle les excursionnistes, les locaux qui viennent profiter également de leur littoral. Donc on a la chance en Bretagne d'avoir une grande biodiversité, voilà. Et on a beaucoup d'acteurs, aussi bien professionnels que particuliers, qui s'investissent. L'action, elle a lieu en Bretagne, pas forcément partout en Bretagne, pas sur tout le linéaire, parce qu'évidemment, les oiseaux ne nichent pas sur chaque mètre linéaire de côtier en Bretagne, mais différents sites de nidification ont été identifiés au fil du temps. Et oui, l'action de Bretagne Vivante commence à être connue au fil du temps et est plutôt représentative de ce qui se passe, oui.
Alors, un autre acteur important, c'est vous, le Conservatoire du Littoral, pour cette protection du gravelot. Est-ce que, tout d'abord, vous pouvez nous préciser en quelques mots ce qu'est le Conservatoire du Littoral, ses principales missions et objectifs?
Alors, le Conservatoire du Littoral, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme d'État. C'est un organisme d'État qui a été créé en 1975, qui intervient en métropole et en Outre-mer, le long donc, du littoral des estuaires également, mais également au bord des lacs. Parce que le nom réel du Conservatoire du Littoral, c'est le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres. Donc ça englobe un peu plus que le littoral uniquement au sens strict du terme. On peut dire que les missions du Conservatoire, elles se divisent en deux, voire trois grandes missions. La première, c'est l'acquisition de parcelles sur donc, le littoral, le bord des lacs, etc., le long des estuaires, que ce soit des ventes à l'amiable, l'intervention de zones de préemption, certaines expropriations, des dons, tout est possible. Voilà, il y a beaucoup de manières pour nous d'acquérir des parcelles diverses et variées. Ça peut être très bien des terrains qui font 100 mètres carrés à des forêts absolument gigantesques de plusieurs dizaines d'hectares. Voilà, il y a vraiment de tout. La seconde mission importante, c'est donc la gestion de ces parcelles nouvellement acquises. On cherche donc à les gérer durablement au travers donc de plans de gestion, de conventions, etc. Mais vous doutez bien que le conservatoire existant depuis bientôt 50 ans, on a un nombre de parcelles absolument phénoménal et on ne peut pas vraiment gérer nous-mêmes ces parcelles. C'est-à-dire qu'on confie cette gestion après acquisition à nos gestionnaires. Donc ça peut être aussi bien des départements, les régions, des syndicats mixtes, des associations. Tout est possible, puisque ce n'est pas possible humainement pour nous de gérer ces parcelles. Voilà. La troisième mission qui est un peu implicite, c'est la transmission de ces parcelles gérées aux générations futures, si je puis dire, dans le meilleur état en termes de biodiversité, de statut naturel possible. Voilà. On essaie d'acquérir, de gérer au mieux et de transmettre ces parcelles à l'avenir. Et si on doit retenir un chiffre clé qui est un petit peu intéressant au conservatoire, c'est qu'on dit qu'on a en moyenne une acquisition de parcelles par jour.
Ouais, ça paraît conséquent, effectivement.
Tout à fait.
Et parmi ces missions, il y a donc en Bretagne celle de la protection du gravelot à collier interrompu. Pouvez-vous nous parler plus en détail de cette mission spécifique confiée également au Conservatoire du Littoral?
Alors l'opération que nous on met en place, c'est l'opération qui s'appelle Attention, on marche sur des œufs. Donc c'est une opération qui nous est confiée par le ministère de la Transition écologique. C'est le Conservatoire du Littoral qui porte cette opération en partenariat avec différents acteurs nationaux, que ce soit la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, l'association Rivage de France, l'Office national des forêts, l'ONF, ou encore l'Office français de la biodiversité, l'OFB. Alors en quoi ça consiste? C'est donc quelque chose d'un petit peu annexe, mais qui coule un peu de source quand on pense à la gestion de nos sites. Beaucoup de nos sites sont donc des sites naturels, et il y a donc de la fréquentation de la vie faune, bien sûr, sur nos sites. Et donc, cette opération consiste à, avant tout, une campagne de communication, de sensibilisation pour les usagers du littoral quant aux oiseaux qui nichent, non pas dans les arbres, mais à même le sol, d'où le titre de cette opération, à savoir « Attention, marche sur des œufs ». Donc le gravelot à collier interrompu dont on a parlé au préalable, c'est donc une espèce qui fait partie de cette plus grande opération que nous on met en place. On retrouve donc le gravelot à collier interrompu, mais aussi bien le grand gravelot, le petit gravelot, des espèces très similaires, les oiseaux plus marins comme les sternes, sternes naines, pierre garin, etc., l'huître épi, les chasses blanches, la vossette élégante, etc. Beaucoup d'espèces qui ont comme point commun de nicher à même le sol. Cette mission, elle nous a été confiée pour la première fois à la suite du déconfinement en 2020, puisque quand nous on était en plein confinement suite à la pandémie de Covid-19, eh bien, les espèces d'oiseaux et les espèces naturelles plus généralement se sont, on peut dire, réappropriées leur milieu. Et donc, elles ont commencé à nicher vraiment sans limite, si je puis dire, vraiment sans dérangement quelconque. Et donc, à l'arrivée du déconfinement, nous, notre retour a pu être vu comme un peu une menace planant sur ces espèces, puisque notre retour est accompagné donc, de nos activités de loisirs, nos activités récréatives sur le littoral, de nos promenades, de nos destructions potentielles par piétinement, de nos chiens que nous tenons en laisse ou parfois que nous ne tenons pas en laisse, qui peuvent malheureusement aller farfouiller à droite à gauche et détruire des œufs ou des nids. Donc voilà, c'est un peu dans cette optique que l'opération a vu le jour en 2020, et donc aujourd'hui on est dans sa quatrième année.
Donc si je comprends bien, c'est à vous, Conservatoire du Littoral, de structurer un petit peu les actions menées pour cette conservation et cette protection du gravelot sur toutes les plages de Bretagne où cette espèce d'oiseau niche.
C'est ça, on a un petit peu un rôle de structurant, c'est ça, parce qu'on est vu en tant qu'organisme d'État, on a un peu de poids, je dirais, on a un rôle plus national, ce qui peut être un peu à l'opposé des associations qui peuvent avoir une échelle plus régionale ou locale. Donc oui, c'est ça, c'est un petit peu notre rôle de structurer avec un peu de recul, mais en essayant quand même d'être au plus près du grand public.
C'est vous qui déléguez aussi aux associations, aux organismes divers et variés, les opérations un petit peu concrètes aussi du quotidien pour la conservation de cette espèce.
C'est ça, le Conservatoire du Littoral, c'est donc un organisme d'État. On a peu ou pas de vraiment d'agents sur le terrain. On a ce qu'on appelle nos gardes du littoral. Ce sont des agents qui ne sont pas directement employés par le conservatoire, mais par des communes, des collectivités, qui arborent le blason du conservatoire, le chardon bleu, mais qui sont donc employés, non pas directement par nous, mais par d'autres structures. Et donc, eux, ils sont répartis un peu partout, sur tous nos sites que l'on possède partout, en Bretagne et en France et en Outre-mer, et qui ont pour but de, comment dire, gérer l'accueil du public, entretenir les sites, et donc, dans la même occasion, de sensibiliser le grand public, les touristes et les locaux, aux enjeux qui planent sur ces sites naturels. On s'appuie également sur d'autres associations. En Bretagne, on peut citer par exemple Bretagne Vivante qu'on a entendu auparavant, Vivarmor Nature, le groupement d'études ornithologiques des Côtes d'Armor, le GOK pour être plus simple, ou encore la LPO qui est bien connue. L'objectif, c'est donc de ces associations et de nos gardes d'agir à une échelle, comme j'ai dit, plus régionale, voire locale, chose que nous, autant au conservatoire, réellement, on a du mal à faire, vraiment, étant donné qu'on est un organisme national, si vous voulez.
Donc les gardes du Conservatoire du Littoral qu'on peut croiser sur les plages, c'est ceux qui viennent un petit peu parfois rappeler à l'ordre quand ils voient effectivement un comportement d'usager des plages qui ne va pas, par exemple.
Tout à fait. Les gardes peuvent être assermentés. Voilà, c'est donc là, ils peuvent avoir l'insigne police de l'environnement, donc avoir le droit de mettre des amendes. L'objectif, ce n'est pas de mettre des amendes, bien sûr, c'est en dernier recours, si vous voulez. Mais c'est un pouvoir de police qui a du poids quand on échange avec certains usagers un peu récalcitrants. Voilà, ça donne une légitimité d'action. C'est pas pour faire peur du tout, et les amendes, etc., c'est vraiment des cas exceptionnels, mais voilà, ça apporte un pouvoir de police.
On a déjà entrevu certaines réponses dans le reportage, mais selon vous, pourquoi est-il si important de protéger cette espèce pour la biodiversité? Est-ce que cette espèce est vraiment en déclin aujourd'hui?
Alors, il est important de protéger le gravelot à collier interrompu, le GCI, comme on l'appelle, parce que c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une espèce parapluie? C'est une espèce qui est assez représentative de son milieu pour que, en la protégeant, on protège également d'autres espèces associées du même milieu et plus généralement un habitat. Vraiment, si on agit pour cette espèce, toutes les espèces qui vivront, disons, sur le haut de plage, qui se nourrissent sur l'estran, qui se reproduisent aux mêmes périodes, etc., et qui ont les mêmes modes de vie ou des similitudes, eh bien, on les protégera également. C'est vraiment un terme qui est important dans l'environnement et dans la biodiversité, une espèce parapluie. Et en ce qui concerne sa stabilité de population, on va dire que la population est globalement stable, voire en déclin. C'est un petit peu un entre-deux. Ça dépend en fait de la surface qu'on étudie, si on se trouve en France, en Europe, etc. Mais en France, on est plutôt, oui, on va dire, en stabilité / déclin. On peut par exemple citer la Grande-Bretagne, où l'espèce a disparu, malheureusement. Voilà, c'est à cause de ce qui se passe, voilà, tout simplement.
Et qu'est-ce qui explique ce déclin, peut-être plus mesuré en France que dans d'autres pays? En filigrane, la question, c'est qui est responsable finalement de ce déclin? Est-ce que ce sont les usagers, les hommes qui parcourent les plages, ou est-ce qu'il y a d'autres causes?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gravelot à collier interrompu et par extension les autres espèces de notre opération, ce sont des espèces, on peut dire, qui cultivent l'échec, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc des espèces qui ont des modes de vie, des modes de reproduction qui, par défaut, n'ont pas une réussite de 100%. Si vous voulez, les gravelots à collier interrompu nichent donc à même le sol, dans des petites cuvettes. Voilà, il y a vraiment le nid est très, très sommaire, les œufs se confondent avec leur environnement. Et le nid peut parfois être implanté un peu trop bas sur la plage, tout simplement. Et donc, quand vous avez des grandes marées, la mer et la houle peut simplement emporter le nid. Voilà, c'est quelque chose de naturel. Malheureusement, ça fait partie du jeu, si je puis dire. Et les individus, les oiseaux, après, avec le temps, finissent par apprendre, si vous voulez, qu'il ne faut pas mettre son nid un peu trop bas sur la plage. C'est un facteur naturel simple, mais qui est intrinsèque à l'espèce, si vous voulez. peux encore citer les phénomènes, d'autres phénomènes naturels, simplement les fortes chaleurs, par exemple, que l'on a eu l'été dernier, les canicules. Malheureusement, on sait très bien que l'été dernier, des oiseaux ont, entre guillemets, cuit sous le soleil et des nids également. Et donc, des œufs ont été perdus. Et voilà, ça fait partie du jeu. Mais il faut bien comprendre que ces espèces ont quand même une forte résilience à tous ces phénomènes, je dirais, naturels. Même si, voilà, année après année, échec après échec, les espèces surmontent ces échecs. Et pour certaines, ont ce qu'on appelle des pontes de remplacement. Donc voilà, quand la première ponte est détruite pour X ou Y raison, naturelle ou pas, eh bien les individus, le couple est capable de refaire une ponte. Voilà, ça fait partie de leur mécanisme de reproduction, cet échec, cette culture de l'échec. Le problème, c'est qu'on a donc tous ces phénomènes qui sont un peu naturels, mais en plus de ça, on retrouve tous les facteurs qui sont amenés par l'homme, par notre présence, les facteurs anthropiques, si vous voulez. Et donc tout ça, ça passe par toutes les activités que l'on fait sur la plage, les activités récréatives, les activités de loisirs, et tout ça, ça peut donc aboutir à un piétinement des nids, d'où le nom de l'opération, comme j'ai dit. Les chiens, nos chiens domestiques que l'on apprécie tant, qui vaut mieux tenir en laisse, parce que même si le chien est très gentil et que le maître vous assurera qu'il n'y a pas de problème, malheureusement, c'est un animal, il peut aller farfouiller à droite à gauche, et s'il trouve un œuf ou un petit poussin, malheureusement, on n'est jamais à l'abri d'une erreur, voilà. Ou encore les cerfs-volants ou drones qui, par le bruit qu'ils font, par l'apparence qu'ils ont, peuvent effrayer les oiseaux sur le terrain et empêcher des reproductions et donc le maintien de l'espèce. Donc l'objectif, c'est vraiment de comprendre qu'il n'y a pas que les facteurs naturels, on a aussi des facteurs qui sont amenés par notre présence sur le littoral, et c'est ça un peu qui déstabilise l'ordre naturel des choses. Voilà, les espèces, naturellement, ont du mal à se reproduire et ont des échecs, mais c'est notre présence qui vient amplifier ce phénomène et détériore la survie de l'espèce.
Alors justement, depuis que vous êtes en charge en 2020, avec les efforts que vous avez fournis, que peut-on dire aujourd'hui de la prise de conscience des usagers des plages où nichent ces gravelots ? Est-ce qu'il y a également une petite différence entre les locaux qui sont les riverains de ces plages et puis les vacanciers ? Est-ce qu'il y a des différences de prise de conscience ?
Alors on a un peu de tout en fait, c'est assez original sur le terrain quand on fait du suivi ornitho et des choses comme ça, mais c'est difficile de quantifier vraiment le succès de ce qu'on fait sur le terrain, de quantifier la prise de conscience. Parce que comme vous dites, il y a les touristes donc, qui viennent parfois une fois sur un site ou alors qui viennent régulièrement, mais on a du mal à recroiser ces personnes. C'est vraiment un travail de longue haleine. Et il n'y a pas forcément vraiment de différence réelle entre aussi bien des touristes que des locaux. Certains touristes peuvent justement découvrir un site, se dire que c'est super, voilà, on vient en Bretagne, c'est magnifique. On fait attention à toute la biodiversité, tous les milieux qui nous entourent. Comme l'inverse, des touristes qui sont là juste pour profiter de leurs vacances et qui n'en ont un petit peu rien à faire. Mais c'est aussi le cas pour les locaux. Vous avez des locaux qui sont très impliqués dans la protection de leur vraiment environnement, de leur plage. Et au contraire, vous avez des locaux qui sont absolument réticents et qui ne comprennent pas qu'on mette des restrictions en place, qu'on fasse de la sensibilisation et des choses comme ça, qui ne voient pas l'intérêt de ces actions. Donc il y a un peu de tout.
Justement, quels sont les outils que vous avez mobilisés ou que vous pourriez d'ailleurs mobiliser à l'avenir pour que cette prise de conscience soit encore plus massive, encore mieux comprise finalement?
Alors nous, au Conservatoire du littoral, comme j'ai dit, on n'agit pas directement nous-mêmes, on délègue un peu l'action à des partenaires. Donc cette année, on a mis en place des kits de terrain. Donc c'est des sacs à dos qui contiennent un petit peu des outils pour nos acteurs de terrain, pour nos associations et leurs bénévoles associés, ou encore des gardes du littoral quand c'est nécessaire. Ce kit, c'est un sac à dos qui contient une plaquette pédagogique, une plaquette avec des magnifiques dessins qui présentent les différentes espèces de l'opération, comme j'ai cité au début, que ce soit les gravelots, les stéens, l'utrier, les chasses, l'hirondelle de rivage, etc. Tout un tas d'espèces. Vous avez une plaquette pédagogique qui permet donc de fournir un support pour la sensibilisation sur le terrain, de présenter les espèces vraiment à quoi elles ressemblent, leur taille, à quoi ressemblent leurs œufs, c'est quoi leur période de reproduction, de nidification, qui permet de faire passer le message sur pourquoi là, il peut y avoir des accès restreints aux plages de mars à août. Voilà, ça permet d'expliquer vraiment le déroulement. Donc on a une plaquette, on a un badge et une casquette avec le logo de l'opération qui permet, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, de donner une légitimité d'action à nos bénévoles, vraiment de les identifier comme faisant partie de cette opération et donc de leur apporter pas un pouvoir de police, puisque ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas du tout de pouvoir, mais voilà, de les identifier facilement sur le terrain pour leurs actions. On retrouve aussi un élément très important que j'aime particulièrement, c'est une réplique d'œuf de gravelot à l'échelle 1. Donc c'est une réplique en bois, qui est en bois peinte beige avec des taches noires, donc, qui est à l'échelle 1. Donc voilà, ça permet vraiment de présenter au grand public, voilà, tenez, voilà à quoi ressemble l'œuf d'un gravelot à collier interrompu. Je peux le poser, je vous demande de vous retourner, je le pose sur le sol, retournez-vous, essayez de trouver l'œuf à vos pieds, et là, les personnes constatent vraiment très très rapidement que l'œuf est absolument minuscule, et qu'en sachant quoi chercher, ils le trouvent, mais que s'ils se baladent simplement sur le littoral, ils ne seraient absolument incapables de le retrouver malheureusement sans faire attention.
Quelles sont aujourd'hui encore les contraintes et les freins auxquels vous vous confrontez pour arriver à sauver durablement cette espèce ?
Un premier point que je trouve qu'on a tendance à oublier, c'est notre point de vue culturel sur cet aspect. C'est-à-dire que dans notre culture, quand on parle à un enfant ou à un adulte et qu'on dit « Tenez, vous avez un nid d'oiseaux », et bien naturellement, les gens vont se tourner vers un arbre et nous dire que voilà, le nid est dans l'arbre. Voilà, c'est fait de brindilles, c'est fait de petits matériaux, voilà, et c'est fait dans un arbre. Les gens n'ont pas le réflexe, la connaissance de se dire « Tiens, cette espèce d'oiseau niche à même le sol ». Que ce soit dans de la végétation en bord de comment dire, de lagune ou autre, ou même directement sur le sable, sur les galets. C'est vraiment quelque chose que nous, en France, c'est pas inscrit dans notre culture. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on apprend. Alors, pour que ça passe sur le long terme et que ça soit vraiment quelque chose de compris, donc il faut passer par l'éducation et simplement enseigner aux enfants que les oiseaux ne nichent pas uniquement dans les arbres. Ça, c'est un premier point, je trouve, qui est assez sous-estimé et qui est important de souligner. Quand on fait de la sensibilisation sur le terrain, on a donc... beaucoup de gens qui sont très intéressés. Quand on a une longue vue ou des jumelles et qu'on est en train de faire du suivi ornithologique, la majorité des personnes vont s'arrêter et se demander « qu'est-ce que vous faites ?» C'est très intéressant. Et la majorité des personnes, encore une fois, vont être intéressées pour regarder dans la longue vue. Là, beaucoup de personnes n'ont jamais regardé à travers une longue vue et leur présenter une espèce, voilà, leur dire « tenez, c'est cette espèce, voilà à quoi elle ressemble. Est-ce que vous la connaissiez ?» Non, voilà, c'est une espèce qui... etc. Et après, on peut dérouler un peu l'explication et présenter les enjeux, le milieu de vie, etc., tout ce qui plane autour de cette ou ces espèces. Ça, c'est la majorité des cas. Très souvent, donc on va dire 9 fois sur 10, voire même un peu plus, peut-être 90-95% du temps, ça se passe très bien. Mais, évidemment, le monde n'est pas tout beau. Et on a parfois des personnes qui sont dans l'incompréhension, dans le rejet pur et simple de ce genre d'action et qui ne comprennent pas, comme j'ai dit, pourquoi on pourrait... disons de mars à août-septembre, si on veut brasser large pour la période de reproduction, de nidification, pourquoi on peut limiter l'accès à une plage par des mesures un peu plus politiques ou carrément fermer une certaine portion de plage. Voilà. C'est quelque chose qui aide parfois du mal à passer, outre la sensibilisation qu'on peut faire sur le terrain ou encore la pose de panneaux, le fait de restreindre des accès, voilà, ça peut être mal vu. Et donc on a toujours ce frein, mais comme j'ai dit, ça sera malheureusement, je pense, toujours le cas. On aura toujours une très très large majorité de personnes très motivés, intéressés par le sujet, et quelques personnes réfractaires qui, malheureusement, sont difficiles à convaincre.
Alors, peut-être pour ces réfractaires, comment nos auditeurs, et pour les autres qui ne le sont pas, mais comment nos auditeurs qui nous écoutent peuvent, peut-être au-delà de cet entretien, s'informer plus encore sur cette nécessaire protection ? Est-ce qu'il y a des documents, des sites de référence que vous pourriez nous conseiller ?
Alors, on a quelques informations sur le site du Conservatoire du Littoral. Vous pourrez trouver des communiqués de presse ou ce genre d'éléments qui présentent succinctement ce qu'est l'opération, et vous verrez un petit peu l'historique depuis 2020. Mais le mieux, comme j'ai dit, étant donné que nous, on ne s'occupe pas réellement de ce qui se passe sur le terrain et qu'on délègue plus, c'est de se rendre sur les sites internet ou les réseaux sociaux des organismes partenaires, que ce soit la LPO, comme j'ai dit, Bretagne Vivante, Vivarment Nature, le GOK, etc., qui ont tendance à mener des actions plus concrètes, plus locales, plus régionales, puisqu'ici on parle de l'action en Bretagne. Donc le mieux, c'est de se rendre sur ces sites, sur ces réseaux sociaux.
Alain Bendimeran, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chargé de mission opération On marche sur des œufs au Conservatoire du Littoral, délégation Bretagne, qui mobilise donc et fédère les acteurs dans la protection de cette espèce, le gravelot à collier interrompu sur nos plages et à proximité. Je vous donne le site du Conservatoire du Littoral, l'adresse du site conservatoire-du-littoral.fr. Merci également à David Morvan de Radioactive, votre radio associative dans la région de Saint-Brieuc, pour la réalisation de ce duplex. Toutes nos émissions sont à réécouter sur le site de la CorLab, rubrique podcast, émission Biodiversité on Air. À très vite donc pour un nouveau numéro de ce magazine dédié aux actions en faveur de la biodiversité en Bretagne. Et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la CorLab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.